au fil des bobines par l'association Cinéphile.
Bonjour.
Bonjour et bonsoir.
Exactement. Alors, c'est Cinéphile, c'est les rendez-vous de l'histoire et on est là pour vous parler un petit peu de nos activités communes pendant la semaine L qui débute vendredi 6 mars à partir de 18h30 au cinéma Des Lobbies pour les actions qui nous concernent.
Une semaine, elle, dont le thème est « Femmes dans l'histoire, histoire de femmes ».
Alors, nous avons, avec les rendez-vous de l'histoire, un beau petit film français de 1943, et puis un film suisse contemporain qui s'appelle « Madame ». Mais comme on est sur l'émission « Au fil des bobines », on va parler du film « Patrimoine »,« Le Grémillon »,« Le ciel est à vous ».
Voyons, Madame Gauthier, vous avez bien un air préféré.
Bah, il y a une chanson que Pierre chantait tout le temps quand nous étions fiancés.
Ah, le temps des lilas et des roses.
C'est ça. Non, tu ne te souviens pas d'où nous sommes partis. Moi, je ne me suis jamais plainte, mais enfin, est-ce que je t'ai jamais demandé quelque chose pour moi? Mais rien, rien. Toujours tout pour les enfants, pour la maison. Parce que moi, mon bonheur, c'est tout simplement que nous soyons d'accord, tous les deux. Et une autre aurait peut-être trouvé que nous en avions assez. Ben, moi, pas. Et tu te promènes dans les nuages comme dans un jardin.
Alors, qui est Guy Grémillon ? Jean Grémillon, cher Guillaume.
Alors, Jean Grémillon est un drôle de garçon qui, tout jeune, s'intéresse non pas au cinéma, mais à la musique. Et il va graviter dans le monde de l'avant-garde. Il est très intéressé par toutes ces nouvelles esthétiques qui naissent à gauche, surtout à gauche et à droite. Et finalement, eh bien, il rencontre un projectionniste pendant son service militaire et sa carrière de musicien prend un drôle de tournant puisqu'il va se consacrer au cinéma. Après des débuts dès le muet en mi-teinte, parce que ses producteurs ne sont pas très contents des sujets qu'il aborde. Et puis, toujours influencé par l'avant-garde française et soucieux de photogénie, un terme très utilisé à l'époque pour parler d'un cinéma expérimental naissant, il va en fait s'orienter vers un cinéma parlant, dans un réalisme toujours plus poussé et avec un intérêt accru pour la description des événements de la vie de tous les jours. Aussi, son cinéma, loin de consommer le divorce habituel du documentaire et de la fiction, semble-t-il tenter leur synthèse. Et ses personnages sont toujours ancrés dans une vie professionnelle et se définissent d'abord par les spectateurs en fonction de leur métier. Et ça, c'est très, 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 très moderne. Dans L'amour d'une femme, un de ses premiers films, il est l'un des premiers et rares cinéastes à traiter le thème de la profession de la femme, et en l'occurrence la médecine, et de ses incidences sur la vie sentimentale et la formation d'un couple. Comme le disait Grémillon lui-même à propos de son film « Patte blanche » de 1948, il s'agit de l'insertion d'un destin particulier dans un cadre général.
Pâle ou vermeil, brune ou blonde, bébé mignon, Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, chair à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, chair à trottoir. Ça vieillit, et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, chair à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors, ça se fout sur la paille, chair à prison.
En 1937, Grémillon fait tourner Jean Gabin dans Gueule d'amour. Et l'année d'après, Rému dans L'étrange Monsieur Victor. Deux films qui lui assurent la consécration artistique et populaire. Durant l'occupation, il réalise Remorque, avec toujours Jean Gabin et la fabuleuse Michèle Morgan, ainsi que Madeleine Renaud. Et puis il tourne Lumière d'été avec Madeleine Robinson et Pierre Brasseur. Et enfin, Le ciel est à vous, avec toujours Madeleine Renaud et Charles Vanel.
En effet, avec ce film, comme tu l'évoquais, Guillaume, on est effectivement dans une représentation d'une profession, d'un couple, en l'occurrence des garagistes d'une petite ville de province. Mais où l'intérêt de ce film porte surtout sur leur passion. La passion d'abord de l'homme, qui est une passion pour l'aviation. C'est un mécanicien hors pair et c'est censé se passer dans les années 30, à un moment où il y a une explosion de l'aviation populaire. C'est vraiment un hobby, un passe-temps que les Français découvrent et partagent. Et c'est une fascination qu'a ce jeune, ce mécanicien qui s'appelle donc, qui est joué ici par Charles Vanel, qui finalement va progressivement passer cette passion à sa femme. Ici joué par Madeleine Renaud. Tu évoquais Madeleine Renaud qui a joué dans un précédent film. Et c'est ce couple qu'on va voir à l'écran, un couple qui, peu à peu, va se laisser complètement prendre par cette passion de l'aviation. Et où le film est d'une certaine façon un film, on va dire, qui anticipe notre féminisme actuel, c'est que cette femme va quasiment tout délaisser pour peu à peu devenir une aviatrice elle-même. Alors il faut savoir qu'il y avait quelques aviatrices à ce moment-là, célèbres, qui s'étaient illustrées. Il y avait en particulier une femme en 1937 qui avait opéré un vol au long cours, qui avait été une sorte de record de pilotage. Et il s'est inspiré de ce fait divers en laissant donc Madeleine Renaud dans ce rôle d'une aviatrice expérimentée qui va, malgré tout ce que la société peut avoir à dire sur le fait qu'une femme abandonne son foyer, abandonne tout ce qu'on attend d'elle, surtout à cette époque. Car c'est tourné en 1943.
Oui, justement.
Et justement, tu peux peut-être aller dans ce sens pour nous dire en quoi le film est particulièrement intéressant et subversif.
Alors, ce film, tourné en 43, on se doute bien, il doit passer à travers les mailles de la censure. Et du coup, ça va aussi conditionner l'écriture du scénario. Le scénario, en fait, il est déjà dans les cartons depuis 39-40. C'est porté, un projet porté. Et effectivement, comme tu dis, en 1937, il y a cette traversée, je crois, de la Méditerranée par une femme. Et le magazine, par exemple, Marie Claire, a consacré tout un feuilleton sur les aviatrices célèbres avant l'heure. Donc, il y a un mouvement populaire, comme tu disais, ce qui va permettre à Grémillon, en 1943 de pouvoir filmer l'aviation. On sait bien que à l'époque, on accuse un petit peu la supériorité de l'aviation allemande et le manque de moyens français.
Comme cause de la défaite, hein,
comme cause de la défaite. Donc, tourner un film sur l'aviation, c'était quelque chose particulièrement casse-gueule. Et quand on est en avion, casse-gueule, c'est pas terrible.
Et bon. En plus, là, sur une héroïne.
Et là, c'est une héroïne et c'est un événement d'irréel. Mais ce n'est pas les noms de l'histoire avec un grand H. Ce sont des personnages de fiction que va utiliser Grémillon. Le ciel s'inscrit exactement dans l'espace ouvert par Aragon en 1941 avec sa poésie de résistance. Il se réapproprie l'idée de patrie de nation et en assimilant la France outragée à une femme. Ce personnage d'aviatrice, en fait, c'est peut-être aussi la métaphore de cette France battue mais qui doit redécoller. Plus d'un indice rapproche la démarche du poète et celle du cinéaste, que Sadoul signalait déjà à propos de Lumière d'été comme l'allusion au crève-cœur, qui, via la valse des lilas et des roses, l'indique clairement. C'est une poésie de circonstances, honneur ou déshonneur des poètes selon qu'on se range du côté d'Aragon, qui est en France, ou de Benjamin Perret, qui est à Mexico.
Voilà, donc tout à fait, en effet, cette métaphore d'une France à nouveau triomphante, audacieuse. Et d'ailleurs, la scène finale où on voit le retour de l'aviatrice qui a fini par conquérir.
T'as dit trop
Et comme une anticipation de la libération. Hein. Alors, je voudrais juste, par contre, dire que ce film, à la fois, est aussi sur le mode de la satire, hein, puisque c'est une satire de la vie de province, évidemment, de ces gens qui sont très casaniers, très moutonniers, et qui n'hésitent pas à dénoncer, à critiquer. La veulerie des personnages est mise en avant. Évidemment, là aussi, on est dans cette France pétainiste qui, d'une certaine façon, Grémillon, que Grémillon décrit et évidemment critique à travers cette mise en scène de ces personnages. Et ceci, d'ailleurs, donne au film un côté un petit peu comique, sarcastique même.
Oui, c'est un film qui a tout de suite rencontré un grand succès populaire et en même temps un très grand succès critique. Parce qu'effectivement, ce film fonctionne avec une dialectique redoutable. Comme tu le disais, et les gens sont montrés avec leur travers. Rien n'était édulcoré. Et on voit effectivement des personnages avec toutes leurs contradictions. On a, pour chacun des personnages, envisagé comme fondamentalement contradictoire. Il n'y a aucun pas en avant qui ne soit porteur de régression, aucun mouvement dynamique qui ne soit empreint d'une menace mortifère. Telle est la logique du film entier. Et elle est la logique qui gouverne chacun des composants du film. Il ne progresse qu'en détruisant, en faisant se succéder équilibre et déséquilibre. Faut-il interpréter cette nature dialectique du film comme un effet de ses conditions et de son contexte de production, à savoir la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation de la France, l'enrichissement strict du cinéma par l'État français et sa supervision par les autorités allemandes? Peut-être. Ce ne serait pas l'impossibilité de parler en direct qu'évoquait Aragon dans la leçon de Ribérac aussi. On voit bien tout cet appel poétique, toute cette dialectique qui nourrit le film. Si à l'évidence, cette situation rend particulièrement aiguë cette dialectique des contraires, l'exacerbe, on ne saurait se borner à y voir la cause unique. Il n'est pas un habillage de circonstances, fut-il tout à l'honneur de Grémillon et de ses collaborateurs, il y va en effet d'une conception de la réalité que propose à notre attention le cinéaste, une philosophie des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable, qu'on peut déjà ressentir dès les années 30 avec ce réalisme poétique qui fonde tout son style. C'est un style qui va être porté par des gens aussi comme Prévert, comme Cardet. Et on verra bien que, effectivement, après-guerre, les jeunes gens qui n'ont plus la guerre et les luttes clandestines en ligne de mire, eh bien, vont carrément vouloir se détacher de ce réalisme poétique. Ils veulent du réalisme trivial. C'est la nouvelle vague qui prend le drapeau et veut une autre esthétique. En tout cas, là, on est au plus haut point de cette magie qui échappe au quotidien. Et c'est ce qui va permettre, dans ces jeux contraires entre imaginaire débridé et trivialité quotidienne, ça va nous permettre effectivement de voir une vision de la femme qui échappe aux stéréotypes.
Alors je voudrais ajouter que le film repose évidemment sur deux grands acteurs, on les a cités. Charles Vanel, qui ici est dans un rôle d'homme timide, d'homme un peu... comment dire, un peu gris, mais en même temps qui est illuminé par l'amour, en fait, qu'il porte à sa femme, à Thérèse. Thérèse, une femme, au démarrage, une femme bien dans son rôle, mais qui peu à peu, là aussi, s'illumine de sa passion pour l'aviation, devient une sorte de maîtresse-femme et une sorte d'exemple, évidemment, de ce qu'est l'émancipation.
Oui. Et alors, on a parlé du contexte de l'émancipation. On pourrait se dire, oui, mais alors là, on est en train de ressasser un vieux truc. Ça va intéresser que les vieux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, on est dans un réalisme poétique. Et le réalisme poétique s'échappe aussi de l'époque. Ce n'est pas qu'une dialectique sur le comportement des uns et des autres. C'est une dialectique sociale. C'est une dialectique temporelle. C'est un film qui porte encore tous ses fruits et toutes ses réflexions sur notre société contemporaine.
Nous avons donc eu l'idée de faire appel à un grand historien, et ceci est la contribution des rendez-vous de l'histoire, pour aller effectivement plus loin dans cette analyse de ce contexte historique, également du sens historique de ce film et de son esthétique que tu viens de décrire. Il s'agit de Pascal Horry. Pascal Horry, qui est considéré un peu comme un des grands créateurs de ce qu'on a appelé l'histoire culturelle, qui est un très grand connaisseur à la fois de la période de cette occupation, hein, de ses premiers livres portés sur les collaborateurs, par exemple, mais aussi sur les années 30. Et il est aussi le grand historien de la partie culturelle, de la dimension culturelle du Front populaire, hein, avec un livre fameux qui s'appelle La belle illusion, non pas la grande, mais La belle illusion, sur la création artistique pendant le Front populaire. Alors, on ne va pas résumer évidemment toute la bibliographie de cet historien, qui est un véritable monument de l'historiographie française, et qui nous fait l'amitié de venir, parce qu'en fait, Grémillon, c'est peut-être son cinéaste préféré. Donc, il va nous faire partager lui aussi une passion pour ces personnages, pour cette représentation du peuple. Et je pense que ceci donnera à cette projection un caractère un peu exceptionnel.
Oui, alors, on répète l'heure, hein, parce qu'il vient à Blois, c'est à 18h30, au Lobis.
Le cadre de ce qu'on appelle les cafés historiques, donc c'est une sorte de première partie de mise en perspective, de mise en situation du film de Grémillon dans cette époque.
Alors ça va ouvrir notre appétit pour le film, mais pas que, parce qu'à 19h30, on se retrouvera tous ensemble pour des discussions plus libres. Hein. Chez Philippe,
à côté,
des bars des Lobis. Mmh. Et puis, on boira un coup, on sera tous ensemble et on pourra discuter de nos envies. Et après, on sera récompensé parce qu'à 20h30, sur le grand écran, eh bien, on pourra s'envoyer en l'air.